sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.
Radio France Internationale, 7h30 ici à Paris, 6h30 en temps universel. Le retour de l'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous. Et la une, ce matin, la vie qui reprend tout doucement ses droits à Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, sous occupation désormais du M23, appuyé par le Rwanda. À l'heure où la diplomatie de Kinshasa réclame toujours des sanctions ciblées contre Kigali, eh bien le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, lui plaide pour un dialogue. Il se dit d'ailleurs prêt à être médiateur, vous l'entendrez. Également au sommaire, l'opposition du Cameroun qui présente pour la seconde fois son projet de révision du code électoral au chef de l'État. Le problème de l'île aux singes en Centrafrique, le gouvernement a entendu les habitants confrontés aux inondations à répétition. Il annonce leur délocalisation et leur relogement dans un autre territoire. Et puis le fléau de l'insécurité routière, particulièrement meurtrière encore sur le continent comme à l'échelle mondiale. Et ce rendez-vous pour lutter aujourd'hui, le quatrième rendez-vous du genre, la conférence ministérielle organisée par l'Organisation mondiale de la santé, ce sera à Marrakech au Maroc. Dans l'est de la RDC tout d'abord, 24 heures après l'entrée des colonnes du M23 dans le centre-ville de Bukavu avec le soutien du Rwanda, la vie a timidement repris ses droits hier dans la capitale provinciale du Sud Kivu. Désormais, je vous le disais, sous occupation, elle aussi, mais qui a relativement été épargnée, semble-t-il, par les combats, contrairement à sa voisine de Goma au nord Kivu. L'enjeu ici désormais pour les habitants, s'approvisionner et reprendre leur quotidien tant bien que mal. Récit Willy Diallo.
Après avoir passé deux jours sans mettre les pieds dehors, Zena est sortie pour vendre les derniers poissons qu'elle entreposait chez elle.
Je suis là à cause de la faim chez moi. Mes enfants me demandent à manger car depuis vendredi, nous étions enfermés à la maison. Je ne leur donnais que de la bouillie. J'ai estimé que je pouvais recommencer la vente. J'ai encore peur, mais c'est Dieu qui va nous aider.
Sur différentes places de la ville, les habitants sont venus constater les dégâts liés aux tirs et aux pillages des magasins et marchés. Hortense a passé deux jours à entendre les balles siffler autour du camp Saïo.
Je vois que nous pouvons déjà commencer à vivre, mais avec précaution. Il n'y a aucun mouvement qui peut nous rassurer que l'on peut déjà marcher avec certitude. Moi, souvent, je vois des véhicules des militaires passer. J'entends qu'ils tiennent un meeting. Peut-être que je serai rassurée.
Dida s'observe et regarde les quelques motos et taxis qui circulent. Les ambulances qui acheminent les blessés vers les hôpitaux attirent son attention.
On a passé des moments très très difficiles. Les armes qui circulent parmi les civils, c'est un grand danger.
Le CICR alerté hier sur les nombreux blessés de guerre par balles et explosifs arrivés dans les centres de soins. L'organisation espère aussi pouvoir identifier les morts et leur donner une sépulture décente.
Willy Diallo, et cette avancée du M23 et des éléments rwandais dans le sud Kivu a provoqué de nouveaux déplacements de population. Près de 10 000 personnes ont ainsi trouvé refuge au Burundi, indiqué hier les autorités burundaises. Hier également, plusieurs centaines de personnes ont franchi la frontière rwandaise, comme l'a rapporté notre envoyé spécial à Bugarama. Pendant ce temps, la société civile congolaise se mobilise, elle, pour répondre à la Cour pénale internationale. À La Haye, son procureur a lancé un appel à témoins sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'est de la RDC ces dernières semaines. Alors, l'Association nationale des victimes du Congo s'est mise à la tâche, comme nous l'explique son directeur Mirand Moulumba.
L'Association nationale des victimes au Congo s'est livrée à cet exercice de pouvoir documenter, certifier les différents incidents qui ont caractérisé ces violations systématiques des droits de l'homme. Au travers nos antennes implantées sur place, il était plus qu'impérieux dans les temps voisins de la commission de toutes ces exactions de pouvoir collecter notamment les images, non seulement les images, mais les témoignages patents de certaines victimes, soit directes et indirectes. Photographie, tuerie massive de population, les viols systématiques de femmes et tout toutes ces exactions perpétrées dans le nord Kivu et dans le sud Kivu avec l'entrée du mouvement M23 et AFC de M. Corné Nanga et constituer un paquet en termes de preuves pour devoir fournir tous ces éléments importants au bureau du procureur. Voilà pourquoi nous implorons le bureau du procureur de passer à la vitesse supérieure. Les victimes de l'armement du Congo étant déjà victimes de juridiction congolaise, ne voudront pas encore une fois de plus être victimes de la prestation du bureau du procureur.
Miran Mulumba, le directeur de l'Association nationale des victimes du Congo. Une situation dans l'est de la RDC face à laquelle la diplomatie congolaise dénonce l'inaction et l'attentisme du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont les mots de l'ambassadeur congolais aux Nations Unies, Zénon Mukongo Ngueye, qui s'est adressé au Conseil dans un courrier consulté par l'agence France Presse. Kinshasa y réclame à nouveau des sanctions ciblées contre le Rwanda et un embargo sur les exportations de ressources naturelles étiquetées comme rwandaises. À l'heure où le sommet de l'Union africaine ce week-end à Addis Abeba n'a pas condamné explicitement le Rwanda, justement, seul le Burundi a plaidé en ce sens. Mais qu'en pense le Congo Brazzaville, autre voisin? Eh bien, le président Sassou Nguesso était justement dans la capitale éthiopienne pour ce sommet où il a donné une interview à nos collègues de France 24 et il plaide pour un dialogue, une rencontre directe entre ses homologues congolais et rwandais. Il se dit d'ailleurs prêt à être médiateur. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame plusieurs fois. Au début, le président Lourenço n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. Donc je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. On est dans une situation de conflit. Chaque parti essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme aussi une autre. Les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution.
La position du président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Le Cameroun à présent, en cette année d'élection présidentielle, avec la plateforme de l'opposition et de la société civile qui a déposé hier pour la deuxième fois son projet de révision de code électoral, interpellé publiquement à ce sujet le mois dernier par la présidente de l'UDC. Le chef de l'État, Paul Biya, avait répondu n'être pas au courant de l'existence de ce document pour lequel il avait par ailleurs montré un intérêt certain. Une perche tendue que les membres de l'opposition n'ont pas manqué de saisir en lui adressant une deuxième copie de ce texte, Polycarpe Samba.
C'est par simple transmission via le service courrier de la présidence contre décharge que le document à destination de Paul Biya lui a de nouveau été envoyé, en mode de transmission que Kupita Damou, député de l'UDC et émissaire de la plateforme, juge suffisant pour que le document parvienne à son destinataire, en dépit du fait que le président camerounais a récemment déclaré n'avoir pas reçu la première copie déposée par le même moyen il y a 4 ans.
En déposant sur décharge, le président de la République doit l'avoir, et nous croyons qu'il aura un courrier introduit à la haute attention du chef de l'État doit lui parvenir. Et c'est à lui de diligenter et de dire s'il accorde une suite favorable ou pas.
Le document qui compte 66 propositions résulte d'un consensus entre acteurs de l'opposition et de la société civile, explique Kupita Damou, ne reste plus, estime-t-il, qu'à avoir la position du chef de l'État.
Le travail qu'on vient de proposer au président de la République est le résultat déjà d'un consensus. Les leaders de la plateforme pensent seulement que pour avoir un consensus le plus large possible, il faut intégrer la position de l'État.
Alors que l'élection présidentielle est attendue dans 8 mois environ, les initiateurs de ce texte croient toujours possible un accord général entre pouvoir et opposition.
L'opposition a fait le gros du travail. Il reste au chef de l'État de voir le point de convergence, le point sur lequel il est d'accord et sur lequel il ne serait pas d'accord avant qu'on aille aux élections. Cela reste faisable.
Premier rendez-vous plausible pour l'étude de ce texte, la session parlementaire prévue pour le mois de mars prochain. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Une mesure en Centrafrique pour faire face aux inondations récurrentes sur l'île aux singes, l'île Bongosoa, nichée au milieu de la rivière Oubangui, entre la capitale Bangui et la ville de Zongo, en RDC, confrontée chaque année désormais à la montée des eaux. Alors le gouvernement centrafricain a entendu les quelques 2000 habitants. Il annonce leur délocalisation et leur relogement. La vie est aujourd'hui très compliquée sur place, Rolf Tefdomialeux.
Pour montrer les dommages causés à leur domicile, les habitants doivent escalader les amas de pierres, de briques, de bois et des morceaux de tôle. Patrick vit avec ses parents dans une maison partiellement effondrée à quelques mètres de la rivière Oubangui.
Les maisons, tout est cassé, on n'a plus rien. Même nos pirogues, les filets, tout est volé. Presque 117 maisons qui sont détruites de l'île de Mbongiswa. Il n'y a plus de maisons.
Au milieu des décombres, dans le silence d'une île dévastée, Ludovic Lair Égaré vit depuis plusieurs mois à ciel ouvert sous un manguier.
L'île Mbongiswa n'est plus habitable. Toutes les activités économiques, les écoles et les hôpitaux sont à terre. Nous voulons une relocalisation pour nous permettre de reprendre nos activités comme la pêche, l'élevage et le jardinage.
Pour venir en aide à ces familles, le gouvernement et ses partenaires ont mis en place un vaste projet. Josiane Bemakasui est ministre de l'Action humanitaire.
Le ministère de l'Urbanisme nous a octroyé un site de 150 hectares sur la route de Mbaïki à 35 km de Bangui. Et cela va nous permettre de délocaliser ces sinistrés de l'île Mbongiswa. Nous avons déjà eu un financement avec la Banque africaine de développement. Nous sommes en train de travailler pour la construction des logements sociaux.
Selon le gouvernement, 226 logements sociaux seront construits dans 2 mois pour accueillir ces habitants. Rolf Esteve Doumerle, Bangui, RFI.
C'est la première fois qu'elle se tient sur le continent africain. Mise en place par l'Organisation mondiale de la santé, la 4e édition de la conférence ministérielle sur la sécurité routière s'ouvrira ce matin à Marrakech, au Maroc. Un enjeu de taille, comme nous dit Étienne Krug, directeur du département des déterminants sociaux de la santé à l'OMS.
La sécurité ou l'insécurité routière est la première cause de mortalité chez les jeunes, la 12e cause de mortalité tout âge confondu et tue 1 200 000 personnes chaque année. Et le but de la conférence est vraiment d'accélérer le progrès. Le monde vit énormément de difficultés pour l'instant, des crises du changement climatique, retrait de l'aide au développement, les guerres. Cette crise de l'insécurité routière est une qu'on peut résoudre relativement facilement. On a les solutions, il faut une décision politique au plus haut niveau de chaque pays, de se dire, voilà, ça suffit, on ne veut plus payer ce prix pour notre mobilité, on va s'attaquer à l'insécurité routière. Ça nécessite un petit investissement financier au départ, mais on le récupère largement par après. Et bien sûr, envie sauvée également.
Étienne Krug de l'OMS, la sécurité routière a un véritable enjeu de société, particulièrement en Afrique où les taux de mortalité sont les plus élevés après les accidents de la route. Alors la sensibilisation, l'éducation sont primordiales, ainsi que le travail de signalisation et le travail sur les infrastructures routières également. C'est le credo en Côte d'Ivoire de l'ONG Amende Œuvre. Reportage de François Humfer-Kataji.
Barrières de sécurité, séparateurs, dodanes. Où et comment mettre en place ces aménagements? C'est le travail de l'ONG Amend qui s'appuie sur une analyse détaillée du trafic, de la vitesse des véhicules, de l'état des routes. L'ONG œuvre notamment à Boaké, aux abords des écoles, ville connue pour son nombre important de deux roues en circulation. Mélissande Boyer, responsable du programme.
Et à ce moment-là, on est capable de faire une proposition de l'amélioration de l'infrastructure, de sorte qu'on puisse, d'une part, protéger les enfants séparés de la circulation et ralentir la vitesse des usagers de la route, qui sont les premiers dangers pour ces enfants.
Une collecte de données fastidieuse et coûteuse, aujourd'hui facilitée par l'intelligence artificielle. Jacques Amatcha est le responsable informatique de l'ONG.
Aujourd'hui, par exemple, on utilise un drone et on capte l'information. On utilise ensuite l'intelligence artificielle pour analyser en fait les flux de véhicules, les trajectoires et tous ces éléments, ce qui nous permet en fait de gagner par exemple autour de 3 semaines en efficacité.
Les dodanes ou ralentisseurs restent la solution la plus efficace pour faire rapidement baisser le nombre d'accidents. Aménagement, mais aussi sensibilisation. À Boaké, les recherches du géographe Emmanuel Bonnet montrent que le casque est mal utilisé ou ne l'est pas du tout.
39% des usagers de moto portent le casque, 25% d'entre eux le portent mal, ne ferment pas la jugulaire ou le portent de travers sur la tête. Et par contre, 100% des passagers ne portent pas le casque.
Le chercheur a recensé 120 morts et plus de 3500 hospitalisations ces 3 dernières années pour la seule ville de Boaké. François Humfer-Kataji, Marrakech, RFI.
Prudence sur les routes, donc on l'a